Tendance Ouest.
Tendance Ouest.
Écoutez les chroniques spirituelles de frère Paul Adrien.
Bienvenue à vous dans cette chronique spirituelle. Je suis le frère Paul Adrien d'Ardemar, je suis prêtre religieux catholique. Et aujourd'hui, il va être question d'un très bel évangile que l'on appelle le Fils prodigue, qui est célébrissime. Une manière de se préparer à rentrer dedans et peut-être dans nos petites capsules avant de lire l'évangile et de le commenter, de vous parler de la confession. Alors, la confession, tout le monde connaît. Tout le monde connaît, mais tout le monde en a peur. C'est vrai que c'est jamais très agréable de dire ses péchés à quelqu'un, mais vous sentez bien aussi qu'il y a un moment donné, il faut avoir le courage de dire ce qu'on a fait. C'est ça aussi être un homme. Et que savoir demander pardon, c'est une des plus belles choses qu'on peut apprendre aussi sur Terre. Alors, pour rassurer tout le monde, et de 1, le prêtre a interdiction formelle de dire à qui que ce soit de faire la moindre allusion à ce qu'il vient d'entendre. Voilà, c'est, rassurez-vous. Dites-vous aussi que vous ne choquerez jamais un prêtre, parce que a priori, le prêtre a déjà entendu pire. Enfin, si jamais je vous disais tout ce qu'on entend, à la fin, on apprend à relativiser. Alors, ce n'est pas du tout pour relativiser votre péché, mais c'est simplement pour vous dire que enfin, ça ne changera pas l'opinion du prêtre sur vous. Parce que, je ne sais pas comment vous dire, mais on aime davantage les gens qui viennent se confesser parce qu'en fait, la confession, c'est un très beau moment où les gens nous parlent en vérité. Personne ne ment dans une confession. Et vous savez, le prêtre que vous avez en face de vous, il n'est pas meilleur que vous, a priori. Et puis, vous avez entendu pire. Et puis, voilà quoi, la vie est belle. Donc, ça n'a l'air de rien, mais déjà, ce que je viens de vous dire en une minute, c'est qu'il n'y a pas de raison, a priori, de stresser quand on va voir un prêtre et que la vie est belle. Le soulagement qu'apporte la réconciliation et le sacrement de confession, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Maintenant, comment se passe une confession ? Une confession, ça se passe bien. En fait, la seule chose que vous avez, entre guillemets, à préparer, c'est les péchés que vous allez dire. Tout le reste, vous pouvez l'oublier. C'est sûr qu'il y a des petites traditions, mais vous avez aussi le droit d'aller voir un prêtre pour lui dire « je ne sais pas me confesser, j'ai besoin d'être guidé ». Les prêtres ont l'habitude, ils vous prennent par la main et puis vous diront « tu récites ça, tu récites ça, tu récites ça ». Mais maintenant, là, il faut que tu me dises ce que tu veux confesser comme péché. C'est la seule chose que vous avez à savoir. Bon, maintenant, pour regarder, traditionnellement, il y a trois parties dans la confession. Vous avez d'abord l'aveu des péchés. Ensuite, vous avez la formule d'absolution par laquelle le prêtre va pardonner vos péchés. Donc, il va mettre la main sur votre tête, imposition des mains, il va réciter la formule d'absolution. Que Dieu notre Père te montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il s'est réconcilié avec le monde. Il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission de péchés. Par le ministère de l'Église qui t'accorde le pardon et la paix. Et moi, je te pardonne tous tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, il vous donnera peut-être une pénitence à accomplir pour réparer vos péchés. Et la vie est belle. Vous n'avez plus rien sur la conscience. Vous êtes propre comme au premier jour de la création. La vie est belle. Le ciel vous appartient. Et la vie aussi. Maintenant, comment est-ce que vous allez préparer votre confession ? C'est ce que je vous disais. La seule chose, entre guillemets, qu'on vous demande, c'est de savoir pourquoi vous voulez demander pardon. Alors, c'est assez simple, parce que généralement, c'est les choses que l'on regrette. Donc déjà, vous regardez si jamais il n'y a pas des choses dans votre vie qui vous rongent, qui vous empêchent de dormir, ou vous trouvez que vous n'avez pas été très classe, quoi. On commence par ça. Bon. Ensuite, quand on veut bien passer le balai et enlever la poussière derrière tous les meubles, on fait ce qu'on appelle un examen de conscience. Un examen de conscience, il y en a plein sur Internet, il suffit de taper d'examen de conscience et puis vous avez des listes de questions, on peut se les poser. Un des plus beaux examens de conscience que je connaisse est celui qui est donné par le pape François. Donc vous tapez examen de conscience, pape François, et là vous avez une série de 30-40 questions qui va de est-ce que je prends soin de la création à est-ce que je m'occupe bien de mon conjoint à est-ce que je fais bien mon travail. Des questions toutes simples mais qui permettent de bien passer le balai dans sa vie pour enlever toute la poussière. Vous pouvez aussi reprendre la liste des péchés capitaux, l'orgueil, l'envie, la colère, la paresse, l'avarice, la gloutonnerie, la luxure. Vous pouvez encore prendre les 10 commandements et puis vous avez plein de manières de faire des examens de conscience et avec ça, vous êtes prêt. Allez-y, qui sait, peut-être que ça va vous plaire. C'est merveilleux d'aller se confesser. Enfin vraiment, on se sent tellement libéré. Oh, allez-y. Nous terminons par la lecture de l'Évangile et son commentaire. Dans l'Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras et tuez-le. Mangeons et festoyons. » Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Tout le monde connaît le fils prodigue qui, d'une certaine manière, n'a pas besoin d'être commenté parce qu'on voit très bien ce que ça veut dire, on voit très bien ce qu'il ne faut pas faire et on voit très bien qui il faut imiter, à savoir le père, évidemment. C'est lui le héros. Tout le monde sait qu'il y a derrière l'image du fils aîné peut-être une allusion lointaine aux pharisiens, que derrière l'image du père, c'est une image de Dieu qui nous est présentée comme un père plein de miséricorde et que derrière le fils prodigue, c'est nous-mêmes, enfin oui, en tout cas dans ce qu'on n'a pas terrible, qui est représenté. Mais il y a aussi plein d'autres petites choses à dire. Je dis ces petites choses parce que ça ne va pas changer votre manière de lire et de voir cette parabole, mais ça va augmenter le charme qu'elle peut avoir. Par exemple, si jamais je vous disais que c'est une parabole que l'on retrouve uniquement dans Luc, il y a plein de paraboles qui sont présentes dans Matthieu, Marc et Luc, mais celle-là est exclusive à Luc. On l'appelle les paraboles de la miséricorde. En fait, il y en a trois qui se suivent. Il y a la brebis perdue, alors qui se retrouve dans Matthieu. Mais vous avez la brebis perdue, la drachme perdue, ça c'est spécial, spécifique à Luc, et le fils prodigue, encore spécifique à Luc. La brebis perdue, c'est 1 sur 100. La drachme perdue, c'est 1 sur 10. Le fils prodigue, c'est 1 sur 2. J'ai même envie de dire 2 sur 2, parce que les deux, en fait, sont un peu les deux fils perdus. Mais vous voyez comment est-ce que ces trois paraboles qui sont spéciales à Luc, en fait, se recentrent à chaque fois 110 une personne pour vous montrer que c'est vous que Dieu aime, c'est vous qu'il attend. Toujours dans les petites choses, certains pères de l'Église ont vu dans cette histoire une image d'Adam qui quitte la maison du père pour une terre étrangère, et peut-être derrière le fils aîné, certains anges rebelles qui auraient été vexés de voir la miséricorde que Dieu était prêt à témoigner aux hommes, et c'est pour ça qu'ils se seraient rebellés. Vous avez encore le fait que derrière, c'est un schéma narratif commun à l'Antiquité, ce qu'on appelle un topos. Le fait que, par exemple, vous ayez un jeune homme qui quitte sa famille, qui tombe dans le malheur et qui revient après une de conscience, ça, c'est un schéma classique des histoires narratives de l'Antiquité. Il y a plein de livres comme ça. Dans les petites choses aussi, est-ce que vous savez que cette formule « Père, pardonne-moi parce que j'ai péché contre le ciel et contre toi », on la retrouve dans la confession. Une des traditions consiste à commencer la confession, quand on va demander pardon à un prêtre, en disant « Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. » Ça vous vient du fils prodigue. De la même manière, dans le fils prodigue, le fait que vous commencez par prendre conscience, que vous avouiez ensuite votre péché, que vous soyez pardonné et qu'ensuite vous soyez réconcilié, c'est exactement la structure de la confession. Mais c'est pas tout. Par exemple, le droit d'aînesse bafoué. Normalement, l'aîné, il devait déjà recevoir une part double. C'est peut-être pour ça qu'il fait la tête. Parce que normalement, en fait, le père, il n'était pas censé donner la moitié au fils aîné, la moitié au deuxième fils. Il était censé donner les deux tiers à l'aîné et un tiers au fils. Donc déjà, en partageant de manière équitable les biens, le père bouleverse les règles. Et là où c'est encore plus bouleversé, c'est avec cette histoire de cochon. Parce que voir un juif garder des porcs, animaux impurs s'il en est, c'est l'image ultime de la déchéance. Mais en attendant, c'est vrai que les caroubes, c'est les gousses, c'est une vraie nourriture, ça existe. C'est un aliment peu nutritif, donc généralement, c'est on le donnait aux animaux et aux pauvres. D'une certaine manière, l'équivalent aujourd'hui, ce serait les betteraves qu'on donne aux cochons, qu'on donne aux animaux. Bon, par exemple aussi, dans les choses qu'on ne connaît pas toujours, le repas de réconciliation. Dans la culture juive, partager un repas, ça signifie la réconciliation complète. Ça veut dire que vous n'avez pas simplement pardonné du bout des lèvres, mais vous avez invité la personne chez vous et que vous avez partagé avec lui le pain. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi est-ce que les pharisiens étaient profondément choqués quand ils voyaient Jésus partager un repas avec les publicains et les prostituées. Parce qu'ils disaient, mais ça veut dire qu'il est entièrement réconcilié avec eux, ça ne va pas quoi. Donc le repas, c'est à la fois le symbole du festin à venir de la vie éternelle et c'est aussi une image de la réconciliation. Vous avez aussi par exemple le fait que le père donne au fils le plus beau vêtement, la bague et des sandales. Il pourrait y avoir derrière une allusion au mariage. Le vêtement de mariage, la bague du mariage, les sandales, parce qu'en fait les sandales, je ne sais pas exactement pourquoi, mais manifestement dans l'Ancien Testament, les sandales, c'est lié au mariage. Et là, derrière, c'est le fait que l'alliance, la réconciliation, l'alliance entre Dieu et les hommes, c'est le symbole du mariage. Mais si jamais, vous pouvez même aller plus loin d'ailleurs. Le vêtement, ça vous rappelle la réconciliation, la robe blanche du baptême, que vous soyez pardonné de vos péchés. La bague, ça symbolise l'autorité restaurée. Ça veut dire qu'à nouveau, le fils a pouvoir dans la maison. Et les sandales, ça montre qu'il redevient fils, parce que c'était les esclaves qui marchait pieds nus. Bon, vous voyez, avec tout ça, j'ai rien changé de la compréhension de cette parabole, mais je vous ai donné de quoi enrichir votre compréhension et de rester dans le droit fil du texte. Ne soyez pas bête. Si vous êtes comme le fils prodigue, demandez pardon. Et si vous êtes comme le fils aîné, acceptez le pardon. Et voilà, c'est la fin de cette chronique spirituelle. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Et qui sait, renseignez-vous. Dans chaque paroisse, il y a des horaires de confession. Et c'est encore une des plus belles manières de faire son carême.
Retrouvez le frère Paul Adrien sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitch et Discord.